Elles étaient sur Terre 58 millions d'années avant nous. Et si elles disparaissaient, notre alimentation ne sera plus jamais la même. Les abeilles sont des insectes fascinants et nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités à l'occasion du 41e sommet mondial sur les abeilles, Apimondia, qui se déroule actuellement à Montpellier.
Avec nous en direct de France Bleu Montpellier, deux invités. Jean-Marc, bon matin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au centre de biophysique moléculaire du CNRS d'Orléans et vous étudiez de près le comportement de ces insectes.
Effectivement, oui, nous les étudions de très près parce que il se pose des problèmes relativement nouveaux depuis quelque temps et nous considérons que les insectes, les abeilles donc, sont représentatives des insectes pollinisateurs et que ces pollinisateurs sont bien évidemment utiles pour les écosystèmes et notamment utiles pour toute la biodiversité, que ce soit la biodiversité de la faune ou la biodiversité florale.
Alors à vos côtés, Gilles Ratia, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes un passionné puisque vous avez fait un tour du monde apicole en moto. On va en reparler. Vous êtes consultant apicole international et vous présidez donc le congrès Apimondia 2009 qui réunit plus de 500 chercheurs et 10 000 apiculteurs du monde entier parce que les abeilles s'intéressent les habitants de tous les pays.
Oui, sous toutes les latitudes, on peut dire qu'on a des abeilles depuis 200 km au nord du cercle polaire jusque dans les oasis du Sahara. À part quelques îles éparses au fin fond du Pacifique, on a des abeilles pratiquement partout. Donc, quand je dis les abeilles entre guillemets domestiquées par les apiculteurs. En fin de compte, c'est plutôt les apiculteurs qui sont domestiqués par les abeilles. Et on les retrouve un petit peu partout et elles participent à la vie sexuelle des plantes.
Alors on va s'attarder un petit peu sur les aspects fascinants de cet insecte, apparu sur Terre donc il y a 60 millions d'années. La nature l'a pourvu d'organes ultra perfectionnés pour accomplir des tâches finalement très compartimentées. Jean-Marc, bon matin.
Oui, effectivement, l'abeille, c'est une machine à travailler, c'est une machine à récolter, très efficace d'ailleurs, à récolter à la fois le pollen et le nectar des fleurs. Alors, il y a un accord tacite qui dure depuis des millions d'années entre les végétaux à fleurs et puis l'abeille. L'abeille est responsable de la pollinisation de 20 000 espèces végétales en Europe et notamment en France. Et sans elle, bien sûr, la reproduction de ces végétaux ne serait pas possible. Alors, le nectar, c'est le carburant pour l'abeille. Avec ça, elle fait du miel, c'est donc sa source de sucre, et le pollen, c'est sa source de protéines et d'oligo-éléments qu'elle ramène à la ruche pour nourrir le couvain. Et c'est une excellente travailleuse, puisque dans une ruche, vous avez 50 000 individus et vous avez une proportion non négligeable de butineuses qui vont et viennent dans la nature pour ramener donc le nectar et le pollen.
Dans un rayon de 10 à 12 km, ce qui est quand même très impressionnant.
On va être un peu plus modeste pour les abeilles, on va dire dans un rayon de 2 à 3 km en fait.
Ah, je ne sais pas où j'ai lu ça, j'étais mal informée alors.
Alors une abeille quand même tout à fait extraordinaire, équipée de deux types d'yeux, deux antennes qui lui servent aussi de nez, d'une bouche avec des mandibules pour couper, pincer, trois paires de pattes, enfin avec des tas de fonctions différentes, c'est un animal tout à fait extraordinaire.
Oui, même avec vous parlez des pattes, même avec des brosses, des corbeilles, des peignes. Pour reprendre l'expression de mon ami Jean-Marc, c'est une machine à travailler, silencieuse, efficace, qui va butiner toujours la même fleur quand elle sort de la ruche. Donc elle va transporter le pollen d'une fleur à l'autre, qui ramène plein de produits très intéressants que l'apiculteur récolte, comme le miel, le pollen. Elle produit aussi de la gelée royale, il y a aussi la propolis, tous ces produits qui sont des aliments, mais on pourrait dire même des alicaments, puisqu'il y a même des apithérapeutes qui s'intéressent à ces produits-là.
Alors, elle a plein de vertus, mais il fait quand même pas bon être un mâle chez les abeilles.
Ah oui, les mâles ne sont là que pour la reproduction. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez dit qu'il ne fait pas bon être un mâle. Non, ils sont là que pour la reproduction. Ils sont sacrifiés après l'acte sexuel, qui se passe en plein vol d'ailleurs.
Et en plus, ils n'y ont pas tous droit.
Ils n'y ont pas tous droit. Mais par contre, la reine collectionne une espèce de spermathèque qui lui permet ensuite de pondre des œufs et d'avoir des abeilles de qualité.
Alors l'homme a toujours eu un rapport particulier avec l'abeille. Et Gilles Ratia, vous qui avez fait depuis 2003 presque le tour du monde, je dis presque parce que vous allez finir votre périple dans les années qui viennent. Vous avez fait un tour du monde donc sur les traces des abeilles. Et aujourd'hui encore, elles jouent un rôle essentiel dans de nombreuses civilisations. Vous l'avez vu.
Oui, bien sûr, il y a un rapport très étroit entre l'abeille et l'homme. Il faut dire que avant l'industrialisation, c'est-à-dire avant la transformation de la betterave à sucre et aussi l'utilisation des cannes à sucre, c'était avec certains fruits la seule matière sucrée que l'homme avait pour son bol alimentaire. Et puis c'est un insecte tellement passionnant que je ne veux pas être péjoratif par rapport aux lapins ou aux poules, etc. Mais c'est tellement passionnant qu'on a des apiculteurs un petit peu de toutes les couches sociales. On a l'instituteur, on a le curé, le ministre, tout le monde s'intéresse aux abeilles. C'est une passion. Il y a la barrière de la piqûre, et donc, quand on dépasse la barrière de la piqûre, qui fait toujours mal, même après 10 ou 20 ans de métier, de l'autre côté, on se retrouve entre passionnés qui n'arrêtent pas de parler d'abeilles à longueur de journée.
Parce qu'en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, il y a toujours des chasseurs-cueilleurs de miel.
Oui, tout à fait. Donc, en fin de compte, il y a les apiculteurs qui maintiennent leurs colonies dans des caisses ou dans des ruches avec des cadres ou pas. Et puis, il y a les apicueilleurs, c'est-à-dire qui partent de chez eux avec une petite corde, un petit sac, et puis qui vont grimper sur des falaises ou dans des arbres pour aller récolter le miel, entre guillemets, sauvage, mais qui est toujours sauvage, même dans nos colonies.
Alors, dans les pays industrialisés, notamment en France, on observe depuis quelques années le retour des ruches en ville. Nous vous proposons d'aller en banlieue parisienne, dans le jardin de l'apiculteur Félix Gilles, sur un reportage de Clémentine Genevrier.
Alors là, on arrive à la gare RER de Villeneuve-le-Roi. Je rejoins Félix Gilles, qui est apiculteur.
Ben, je vous disais que je rentrais du rucher, parce que j'ai plusieurs ruchers. Actuellement, je prépare l'hivernage des abeilles, qui consiste à faire un traitement contre le varroa. Vous savez que le varroa est un acarien qui vit très bien avec les abeilles, mais qui dérange beaucoup les abeilles en même temps. Et donc, pour éviter ça, on fait un traitement qui est annuel.
On est donc en milieu urbain. C'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant qu'il y a des ruches et des abeilles en ville.
Ça fait tout drôle parce que, bon, nous, apiculteurs, nous sommes habitués. Et étant moi-même président du groupement apicole du Val-de-Marne, on a 1500 ruches. Donc, on a 46 villes à aider. Puisque à l'époque des essaims, on doit intervenir pour naturellement libérer les gens de ces essaims et surtout essayer de protéger l'abeille. Voilà, donc on s'approche de chez moi où effectivement j'ai un rucher. Vous allez voir, ça fait drôle parce que j'ai des ruches qui sont là. Tout autour de chez moi, il y a des maisons. Alors la règle est toute simple. Il suffit d'avoir ces ruches à 2 mètres du mur du voisin ou des voisins. On peut considérer qu'une palissade, une haie vive de 2 mètres de haut. Et là, on est en règle. Voilà. On va directement rucher.
Donc, combien est-ce que vous avez de ruches ici?
Des ruches, si je compte toutes mes ruches, j'en ai plus de 150.
Et alors, dans une ruche comme ça, il y a combien d'abeilles à peu près?
On va dire que dans une ruche comme ça, en début d'année, il y a environ 20 000 abeilles. Cette population va très très vite grandir en fonction de la miellée qui arrive printanière. Si on se positionne ensuite au mois d'avril, on va arriver avec 30 000 abeilles, 35 000 abeilles. Et fin mai, il y a jusqu'à 80 000 abeilles dans une ruche.
Oui, parce que la reine est capable de pondre, je crois, jusqu'à 2000 œufs par jour.
Absolument. Sachant qu'une abeille vit 45 jours, à partir du moment où elle est née, vous voyez qu'il faut que la reine ponde beaucoup pour qu'il y ait beaucoup d'abeilles.
Compenser, ouais.
Voilà.
Jean-Marc, bon matin, Gilles Ratia, que pensez-vous de ce retour des ruches en ville?
Alors, je le trouve tout à fait paradoxal, et c'est même inquiétant. Je suis très content qu'il y ait des abeilles en ville et qu'on puisse profiter du miel des vignes. Mais le pendant de cette bonne nouvelle, c'est qu'à la campagne, les abeilles se portent nettement moins bien. Elles se portent nettement moins bien parce qu'on a observé qu'avec l'augmentation des grandes cultures et avec l'utilisation massive de pesticides, l'abeille, qui est une excellente machine de travail, qui est solide, n'est pas prête à à subir de telles intoxications. Et on a remarqué donc un phénomène mondial qui a débuté dans les pays les plus industrialisés et là où l'agriculture était la plus intensive, notamment la France, qui est le deuxième consommateur de pesticides au monde. On a découvert que là, il y avait un affaiblissement général des colonies qui a conduit, ben, on peut le dire, hein, la diminution de la production de miel par un facteur 2 depuis une dizaine d'années.
Alors, on va revenir sur cette disparition des abeilles, mais c'est vrai que l'idée de mettre des ruches en ville, c'est aussi un moyen de sensibiliser la population et puis d'accroître le nombre de colonies d'abeilles.
Oui, effectivement. Il est toujours bon que les gens puissent se rendre compte de l'utilité des écosystèmes, et en particulier de celui des pollinisateurs. L'abeille est un merveilleux exemple, d'autant qu'elle est complexe dans son fonctionnement individuel, on l'a dit. C'est une machine à travailler qui est extrêmement perfectionnée, mais elle est aussi complexe dans son fonctionnement sociétal. C'est parce que c'est un insecte social qui vit en colonie. Je viens d'entendre qu'il y avait jusqu'à 80 000 abeilles dans une ruche, et donc ça nécessite une organisation extrêmement compliquée où, depuis la larve jusqu'à la butineuse, l'abeille traverse différentes étapes de sa vie avec différents rôles.
Tout est très organisé, hein?
Ah oui, absolument, oui. C'est vraiment au jour près, et même des fois à l'heure près, qu'une abeille va changer de rôle. Ce n'est qu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, que c'est la butineuse. Et j'ai le regret de dire que les abeilles que vous voyez voler autour de vous, ce sont les vieilles abeilles, hein, qui finiront par mourir à la tâche.
Et au sein de la ruche, ce qu'on ne voit pas, donc, il se passe quoi?
Ah, il se passe des tas de choses merveilleuses que les scientifiques étudient avec beaucoup d'intérêt. Les interactions de la ruche avec elle-même, mais les interactions aussi de la ruche avec son environnement. Et donc, notamment, on a parlé de dépopulation d'abeilles et d'affaiblissement, les problèmes qui sont liés au parasitisme, donc je cite par exemple le varroa, les problèmes liés aux maladies, hein, les maladies virales en particulier, et tous ces problèmes sont évidemment exacerbé en présence de pesticides, puisque moi je travaille là-dessus et j'observe des corrélations entre les différents phénomènes.
Vous avez parlé de...
Ah, pardon, oui, on vous écoute. Comme vous êtes à distance, on le disait, vous êtes à Montpellier, on ne se voit pas, alors ce n'est pas toujours évident, excusez-nous.
Vous avez parlé de distance de butinage, on a parlé de ville et de campagne. En fin de compte, nos petites abeilles, on peut les considérer comme des bio-indicateurs un petit peu. Si vous voulez, les apiculteurs sont des lanceurs d'alerte, mais en fin de compte, les premiers lanceurs d'alerte, ce sont nos abeilles. On a eu, pendant des millénaires et jusqu'à maintenant, un taux de mortalité à peu près, je vais dire entre guillemets, c'est pas le terme n'est peut-être pas approprié, biologique, de 5 à 10%, et maintenant on se retrouve pas partout et pas tout le temps, il faut être honnête, avec des taux de mortalité de 30-40%, voire même certains pics erratiques dans certains endroits. Et justement cette mortalité, un petit peu, quand on prend un regard distancié, hein, quand on prend une photo aérienne ou encore mieux satellitaire, on pourrait dire que c'est en peau de léopard et que les parties foncées, en fin de compte, correspondent à une modernité de l'agriculture, et que les parties claires, où c'est encore un peu le paradis pour les abeilles, correspondent aux grandes étendues, aux grandes forêts, à certains piémonts protégés, à des déserts qui fleurissent de temps en temps, etc.
On revient sur la disparition des abeilles juste après une petite pause musicale.
Je perds la foi. approche. Peut-être qu'au fond j'ai un truc qui cloche.
De bol dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons aujourd'hui des abeilles à l'occasion du 41e congrès mondial de l'apiculture qui se déroule actuellement à Montpellier. Alors hier, Henri Clément, le président de l'Union française de l'apiculture et l'organisateur de ce congrès, a lancé un appel pour sauver les abeilles, parce qu'on en a un petit peu parlé juste avant la musique. Sur tous les continents, leur population baisse dans des proportions inquiétantes. Alors justement, de quel ordre ces proportions de baisse des colonies d'abeilles partout ?
Eh bien, on en a parlé un petit peu. Les mortalités des abeilles varient de 10 à 30, 40%. Pas toutes les années, pas partout. Mais ce qu'il faut tenir compte, c'est l'ensemble de la problématique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous avez un cheptel, on va dire un apiculteur professionnel qui a 1000 ruches et qui a 400 ruches qui meurent, il faut bien s'imaginer que les 600 qui restent sont très affaiblis. Donc il faut que ça soit d'une manière plus générale et ça se traduit en fin de compte par tout simplement le nombre d'apiculteurs, le nombre de ruches et le nombre de tonnes de miel produites qui restent. En France par exemple, pour vous parler de la France, Monsieur Bonmatin a dit qu'on était les deuxièmes consommateurs de pesticides au monde.
Mais est-ce qu'on est des gros consommateurs de miel?
on est des bons consommateurs de miel quand même. Il faut l'avouer, l'Europe détient pas mal de records, en l'occurrence les pays nordiques et l'Allemagne.
Mais on parle d'une diminution vraiment importante de la production.
Voilà, alors si vous voulez, en quelques chiffres, nous avions dans une enquête de 1994, donc il y a une quinzaine d'années, on avait 74 000 apiculteurs et 1,7 million ruches, et on produisait plus de 22 jusqu'à 25 000 tonnes, suivant les années, de miel. Eh bien, 15 ans après, de ces 74 000 apiculteurs, on n'en a plus que 62 000. On n'a plus qu'un 1,3 million et des poussières à la place d'1,7 million. Et la production de miel a tellement chuté, aux alentours de 18 000 tonnes, que maintenant, on importe plus de miel qu'on en produit en France.
Alors, pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi les abeilles disparaissent-elles ?
Alors, on a été très focalisé sur la problématique pesticides, et il y a de quoi, et M. Bonmatin pourra développer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a une multifactorialité. On pourrait les énumérer. On va dire qu'il y a 12 à 15 causes différentes, mais il y a un gros groupe de facteurs majeurs. Ce sont les pesticides, et je vous donnerai un exemple sur très parlant sur les pesticides, vous avez un acarien qui est arrivé depuis plus de 25 ans sur le continent européen, et puis vous avez aussi un affaiblissement du bol alimentaire des abeilles par le fait qu'on a une agriculture qui répand de plus en plus, cette fois-ci, alors pas des insecticides qui tuent les abeilles, mais des herbicides qui tuent les fleurs et donc la variété du bol alimentaire des abeilles est très faible. Il y a aussi tout un tas de causes secondaires, souvent d'ailleurs ce sont des viroses ou des maladies qui sont opportunistes, qui arrivent sur un terrain déficient, et c'est toute cette multifactorialité de causes. Il y a des synergies aussi entre les différents facteurs et des grilles de lecture différentes si on se situe au fond au sud du Maroc, ou aux États-Unis, ou sur la chaîne himalayenne.
Je vous propose d'écouter Félix Faure, notre apiculteur du Val-de-Marne, dans l'Est de Paris, qui justement nous donne sa version.
Dans les campagnes, il est sûr que c'est surtout la partie pesticides, vous savez, et c'est dur à dire, mais on l'a observé depuis 1993, où on a malheureusement un petit peu négligé. Nos gouvernants ne nous ont pas trop aidés pour éliminer cette partie pesticides, puisqu'on a commencé par le gaucho. Ensuite, on est arrivé aux régions.
Oui, parce qu'en fait, il faut expliquer pourquoi elles mouraient, ces abeilles. C'est parce qu'il y avait un problème de neurotransmetteurs, c'est ça ?
Voilà. Disons que ces molécules que je vous indique, la dernière en date, c'est le cruiseur, ce sont des molécules qui dérangent l'abeille sur la partie orientation. Elle ne sait plus revenir à la ruche. Et les ruches se vident. Tout part de la pollinisation. Attention, les abeilles. Aujourd'hui, les abeilles, c'est le nombre. Un bourdon, un bombus, pollinise mieux qu'une abeille presque, parce qu'il est très lourd. Il transporte plus facilement les étamines d'une fleur à l'autre parce qu'il est lourd. D'accord ? Mais les abeilles, leur importance, c'est le nombre. Quand on vous dit que dans une ruche, c'est pour ça qu'on se taque en vous disant qu'il y a 80 000 abeilles, c'est le nombre. Okay, 80% de la pollinisation, on le dit, est faite par les abeilles. Si les abeilles disparaissaient, on le sait, 4 ans après, c'est fini. On a des questions à se poser.
Comment ça, 4 ans après, c'est fini ?
Ben, 4 ans après, c'est fini, c'est parce qu'il ben, n'y aura plus de fruits, il n'y aura plus de pommes, il n'y aura plus de melons, il n'y aura plus de tomates, il y aura plus, c'est fini. Il n'y aura plus que des farines à manger.
Jean-Marc Beaumantin, Félix Port, que l'on vient d'entendre, accuse les pesticides. Hein, vous l'avez évoqué dans l'appel d'Henri Clément, là, qui a été lancé hier en direct de Happy Mondia. Il y a un appel très clair pour que les pouvoirs publics enlèvent des produits qui sont utilisés aujourd'hui dans l'agriculture. Lesquels ? Et est-ce que c'est vraiment la cause profonde de la disparition des abeilles ?
Alors, je reprendrai les propos de l'apiculteur qu'on vient d'entendre, qui a témoigné avec ses mots et qui a expliqué avec ses mots un petit peu les choses. Je rappelle que dans ce congrès mondial d'apiculture, donc à peu près 500 scientifiques sont invités et plusieurs thèmes sont évoqués, notamment celui des viroses, des maladies, donc du parasitisme et des pesticides, et que chaque spécialiste regarde le problème de son côté et pousse un cri d'alarme. S'agissant maintenant des causes principales qui affaiblissent les colonies d'abeilles à travers le monde, alors bien sûr la situation n'est absolument pas homogène comme le disait Gilles Ratia, selon que le pays est industrialisé, selon qu'il pratique telle ou telle apiculture, la situation n'est pas homogène, mais il se dégage une espèce d'ensemble qui montre que... Trois facteurs principaux affectent la survie des abeilles. C'est donc des facteurs qui sont, j'allais dire, naturels. C'est le système hôte parasite qui concerne le varroa. Le varroa est un parasite de l'abeille depuis des millions d'années. Il y a une espèce d'équilibre qui s'est établi et les uns
cohabitent.
Ils cohabitent ensemble, voilà, au détriment de l'abeille, bien sûr. Hein, c'est un petit peu comme les puces sur les chiens. Hein, mais cet équilibre s'est fait et après tout, il devrait être conservé. Il y a aussi l'apparition de virus, de nouvelles maladies. Alors là, on ne sait pas trop si c'est que ce sont vraiment de nouvelles maladies ou si c'est qu'on a maintenant les moyens technologiques de les détecter. Hein. Donc à partir du moment où on a fait de grands progrès scientifiques, on se rend compte qu'il y a des maladies chez les abeilles, mais il y en a aussi chez les humains. Et les
sont pesticides,
pas
par exemple, qui sont clairement dans l'appel, vous dites, faut retirer certains produits. Lesquels ?
Oui. Alors, l'appel que je n'ai pas moi-même signé, mais qui reflète quand même un peu la pensée commune des scientifiques qui sont au congrès, dit ceci. Vous avez donc deux causes qui sont à peu près naturelles, et puis il y a une cause qui est, elle, introduite par l'homme. Et il se trouve qu'il y a une concomitance dans le temps entre les affaiblissements de colonies et l'introduction par l'homme de nouveaux pesticides de type neurotoxiques, hein, qui sont utilisés à des doses à l'hectare qui sont bien moindres que les pesticides qu'on utilisait avant, mais qui par contre ont gagné en toxicité. Alors, je vais vous donner un chiffre très simple. On en utilise 100 fois moins à l'hectare, par exemple, quand il s'agit de semences enrobées, mais ces produits sont 1000 fois plus toxiques. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit allé véritablement dans le sens du progrès. Comme il y a une concomitance d'apparition d'affaiblissement des colonies avec l'utilisation de ces nouvelles générations d'insecticides qui sont les dernières générations apparues il y a une dizaine d'années, et comme plus on les utilise, plus les abeilles disparaissent, moi je ne cherche pas à savoir quel est le plus grand responsable entre les virus, les parasites ou les pesticides. Je dis simplement une chose qui me semble évidente. Si on arrête d'essayer de trouver le coupable et qu'on se dit, cherchons plutôt les solutions, on se dit que les solutions, on ne peut agir que sur ce que nous, on a apporté.
Alors, ce qu'on ignore souvent, c'est que dans cette disparition des abeilles, eh bien, tout ce phénomène a une incidence importante sur l'alimentation humaine. Alors, pourquoi et dans quelle proportion ?
Rapidement.
Alors d'abord, l'abeille est un excellent indicateur. Quand l'abeille va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans son environnement. Et je vous rappelle que nous partageons le même environnement qu'elle. Donc, si elle est sensible aux polluants en général et aux pesticides en particulier, ça veut dire qu'il y a les taux, cette pollution diffuse permanente hein, qui est relarguée dans l'atmosphère, dans les eaux et dans les plantes, elle est présente aussi pour nous. Et on s'est rendu compte que, par exemple, les pesticides, certains insecticides, étaient capables de passer, bien sûr, dans leur ruche, mais aussi de passer, puisqu'ils sont dans les plantes, ils sont présents à l'intérieur des plantes, de passer dans ce qu'on mange, dans notre assiette. Alors évidemment, à des taux qui ne nous affectent pas, parce que nous, on est beaucoup plus gros qu'une abeille, il faut des doses plus importantes, mais on se rend compte que ces nouvelles molécules d'une dernière génération sont capables d'agir à des doses extrêmement faibles, puisqu'elles sont utilisées à des doses extrêmement faibles, et que ces intoxications qui sont répétées, chroniques, tous les jours, à petites doses,
ont des effets sur la santé.
Alors, à plus long terme sur la santé.
Pour conclure, l'abeille est considérée comme la sentinelle de la nature, et le fait qu'elle soit menacée de disparition partout dans le monde aujourd'hui, ça nous alerte sur nos responsabilités d'humains face à la nature.
Eh bien, c'est pour ça que moi, je ne suis pas apiculteur et je travaille avec eux parce que nous avons des intérêts communs, mais c'est pour ça que je pense que les apiculteurs, je ne voudrais pas parler à leur place, mais simplement parce que ce sont les premières victimes, parce que les abeilles sont ultra sensibles à la fois au niveau individu et au niveau de la colonie, les apiculteurs ont pris un petit peu sont le fer de lance de cette cause, parce que l'abeille nous alerte, les apiculteurs relaient cette alerte, les scientifiques se penchent sur le problème et tirent un certain nombre de conclusions générales, et donc ça nous donne des indications sur la bonne voie à suivre.
Gilles Ratia, Jean-Marc, bon matin, merci. Le congrès Happy Mondia se termine dimanche à Montpellier, dans le sud de la France. Encore 2 jours de travail. Merci, messieurs.
Merci d'être passé dans ces pas du vent. Merci aussi aux équipes techniques de France Bleu Montpellier. Lundi, c'est la journée mondiale de lutte contre la monoculture des arbres. Nous ferons donc le point sur cette pratique dévastatrice pour les forêts sur tous les continents.
À lundi donc, même planète, même heure.